Bonjour à tous, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Le responsable d'église ». Alors, je pense qu'il nous est... Oh, il y a un retour, c'est bien. Je pense qu'il nous est tous arrivé de regarder parfois des films ou des séries où il y a la partie 1 et la partie 2, le film qui est coupé. Eh bien, malheureusement, c'est ce que je vais faire avec cette prédication. Il y aura une partie 1 et une partie 2, car je me suis aperçu en la prêchant hier chez moi, je prêche toujours la prédication chez moi avant de la prêcher en chair, que j'avais prêché 50 minutes, ce qui était beaucoup trop long. Et donc, d'un commun accord avec Béa, j'ai décidé de faire une partie 1 et une partie 2. Donc, ne soyez pas surpris que cette prédication vous laisse un peu sur votre faim. Il y aura la suite, alors pas dimanche prochain parce que ce n'est pas moi qui prêche, mais le dimanche suivant, ne vous inquiétez pas, je referai un petit récap. Le responsable d'église. Alors, c'est intéressant car en cherchant un fond de PowerPoint, à un moment donné, dans mes recherches, il m'a apporté des photos, des images d'agriculteurs. Ça n'a rien à voir avec la manifestation qu'on connaît en France, mais j'ai pris quand même l'image car cela nous rappelle que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et ce matin, on va parler de certains de ces ouvriers, les responsables d'église. Alors, je ne sais pas si tous les anciens sont présents ce matin. Je vois Bernard, Béa, Jonathan. Je ne sais pas si Pierre-Paul est par là. Mais en tout cas, cette prédication s'adresse à moi, s'adresse à nous et s'adresse à vous. C'est une prédication que j'ai eu un peu de mal à préparer car elle m'a rappelé les nombreuses exigences qui étaient nécessaires à accomplir la tâche de responsable d'église, mais qui m'a fait du bien et qui, j'espère, vous fera du bien à vous aussi. Alors, l'église, il y a 4 mois maintenant, a vécu un changement important, qui est d'ailleurs toujours en cours, qui est un changement pastoral. Roger, l'ancien pasteur de l'Église, qui est resté 25 ans quand même, un quart de siècle, hein, c'est pas rien, a pris sa retraite active, a quitté ses fonctions de l'Église et je suis venu pour le remplacer. Donc je suis toujours en découverte de ce rôle. Mais forcément, qui dit changement pastoral dit un fonctionnement différent. Car, je pense que certains l'ont déjà compris, je suis relativement différent de Roger. Et j'ai une approche différente du fonctionnement de l'Église, et cela a pu soulever parmi vous quelques interrogations. C'est pourquoi j'ai décidé de nous lancer sur une série de prédications sur la direction de l'Église. Alors oui, ce fonctionnement différent qui est en train de s'instaurer a apporté certaines interrogations, des interrogations légitimes ou des incompréhensions. C'est normal, hein, quand on a vécu 25 ans d'un fonctionnement, ça peut représenter un certain choc d'avoir, pas du jour au lendemain, mais presque, un autre changement qui arrive, un changement important de fonctionnement. Et donc, il y a des interrogations légitimes. C'est pourquoi je vais faire une série sur le fonctionnement biblique, j'insiste sur le mot biblique, de l'Église locale, sur la base de l'épître de Tite, que nous ferons en intégralité. Alors, vous doutez bien, pas en 2 prédications, il va y avoir une série de prédications, sur la petite épître de Tite. Et si jamais vous avez jamais lu un livre biblique en entier, ça sera l'occasion de l'avoir fait. Et après quoi, je ferai une prédication sur les diacres, car nous avons aussi nommé des diacres il y a quelques mois. Et donc, ça sera un rappel de qu'est-ce qu'on attend, des exigences des diacres. Ce sera votre tour aussi. L'objectif dans l'Église est pour moi de clarifier ma vision du fonctionnement de l'Église. Donc de répondre à certaines interrogations qui se sont soulevées. Et il y a un objectif double pour les anciens et pour les diacres, qui est de se remémorer, je dis remémorer parce que j'espère que vous en avez déjà connaissance, se remémorer des exigences bibliques pour cette tâche. À partir de ce texte, nous verrons 3 choses. Le contexte de l'épître, évidemment, vu qu'on va la faire en entier, donc c'est important pour éclairer notre lecture. L'exemple de Paul, qui était en quelque sorte l'un des premiers dirigeants d'Église. Ensuite, nous regarderons ce que le responsable ne doit pas être. Et nous verrons en dernier ce qu'il doit être. Et donc, sans transition, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la petite épître de Tite, Alors parfois, elle est un peu difficile à trouver quand on ne connaît pas bien sa Bible. C'est l'avant-dernière épître de Paul qu'on trouve dans la Bible. Donc si vous trouvez un de Thessaloniciens ou un de Timothée, c'est juste après. Et c'est avant la petite épître de Philémon, qui est la dernière épître de Paul, avant l'épître aux Hébreux. Et donc je vais lire les quatre premiers versets pour commencer. Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Au moment approprié, il a fait connaître sa parole par le message que j'ai été chargé de proclamer selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Je te salue, Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accordent la grâce et la paix. Et on va d'abord s'arrêter là. Nous sommes donc en présence d'une lettre que l'apôtre Paul écrit à Tite, dit-il, son enfant en notre foi commune. Alors, qui est ce fameux Tite ? Tite est un chrétien d'origine païenne, converti par l'apôtre Paul probablement à Antioche. L'apôtre l'appelle « mon enfant ». Alors, vous le savez, l'apôtre Paul n'a pas eu d'enfant au sens biologique du terme, mais il a eu des enfants au sens de la filiation spirituelle. Et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant biologique qu'on n'a pas d'enfant tout court. On peut très bien avoir des enfants spirituels que le Seigneur nous a confiés, qu'on a pu enseigner, par exemple si on a été moniteur d'école du dimanche, etc., etc., et avoir en quelque sorte des enfants spirituels. Je ferme ici la parenthèse. Et Tite a été l'un des fidèles collaborateurs de l'apôtre durant les 3 années de ministère à Éphèse. Son nom est surtout associé à la crise dans l'église de Corinthe. Paul avait envoyé Tite pour lancer la fameuse collecte en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem. Si vous avez lu ces épîtres-là, vous savez de quoi, quel épisode il est question. Plus tard, Tite sera aussi chargé d'une tâche pas évidente, celle de ramener l'église de Corinthe à une attitude plus loyale envers son fondateur, l'apôtre Paul, notamment en apportant à cette église la seconde épître que Paul a écrite aux Corinthiens. Donc là, 2 Corinthiens a été transmise à l'église de Corinthe par l'intermédiaire de Tite. Après la libération de l'apôtre Paul de sa première captivité romaine, Paul avait travaillé de nouveau avec Tite sur l'île de Crète, et c'est ça qui va nous intéresser, car c'est le cadre de la lettre d'aujourd'hui. Alors l'île de Crète, pour ceux qui ne savent pas trop où ça se situe, donc là on est en Grèce, hein, en Europe, dans la Méditerranée, et l'île de Crète, c'est celle qui est en rouge, c'est la plus grande île de Grèce. Sauf que l'île de Crète, aussi belle puisse-elle être, la réputation de cette île est particulièrement mauvaise. On y trouve beaucoup d'ivresse et les rixes, les combats de rue, sont quotidiens. On reproche aux Crétois d'être des êtres fourbes et menteurs, à tel point qu'il y a un verbe qui a été créé pour eux, le verbe « crétiser » qui signifiait « tromper ». Donc là, autant vous dire que la réputation, c'est pas super, c'est pas le meilleur endroit où ils vont être. L'état moral déplorable de l'environnement a contaminé l'Église et Tite devra mettre les points sur les i, comme on va le voir tout au long de l'épître. On ne connaît pas bien la fondation des communautés chrétiennes en Crète. Peut-être que ce sont des Juifs crétois qui se sont convertis lors de la Pentecôte ou alors des chrétiens qui s'y sont arrêtés, obligés d'y faire escale pendant l'hiver. Cependant, on sait par la présente lettre que les églises de Crète sont complètement inorganisées et qu'elles sont ravagées par des faux docteurs. Ces derniers d'origine juive se font payer pour leurs enseignements, mais leur conduite ne les recommande guère, comme on va le voir. En fait, ils enseignent des choses et ils font complètement l'inverse, et ils se font payer pour cet enseignement. Ils apportent toutes sortes de fables judaïques et imposent des commandements humains. Ils sont passionnés par les discussions folles, les querelles, les disputes relatives à la loi, et ils causent des divisions dans l'Église, mais pas seulement, ils en causent aussi au sein des familles. Qu'en fait, c'est des enseignants qui font de très gros ravages. Ça, c'est important pour comprendre pourquoi Paul va demander certaines choses à Tite. Alors, pour Paul, Tite est l'homme de la situation et l'apôtre lui accorde sa confiance jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelqu'un pour le remplacer. Ça sera au chapitre 3. Cette lettre a donc un en-tête officiel qui servira en même temps à Tite d'ordre de mission, comme on va le voir, dont il pourra faire état, s'il a besoin, devant les opposants qui mettraient son autorité en question. Donc en fait, si jamais on vient lui dire « Oui, mais Tite, t'es qui ?» De quel droit tu parles, il pourra faire valoir avec cette lettre « Je parle au nom de l'apôtre Paul ». Et donc d'avoir du poids face à ceux qui voudraient lui dire que Tite serait potentiellement personne. Maintenant qu'on a vu ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. L'exemple de Paul, premièrement. L'apôtre se présente à Tite comme serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Le premier terme ici en grec, c'est douloi, ça veut dire esclave. Alors c'est intéressant parce que nous, on a une certaine conception du serviteur, mais une autre conception de l'esclave. L'esclave, ça peut paraître un peu plus péjoratif de par l'histoire qu'on a eue, mais ce n'est pas ce que signifie ici le terme en grec. En fait, par ce terme, Paul veut souligner sa soumission totale, absolue, entière à Dieu le Père. Le second apôtre souligne l'autorité qu'il a reçue de Christ lui-même. Et ça constitue un rappel pour nous. Nous servons un maître qui n'est pas nous-mêmes. On ne sert pas nos intérêts. Nous servons le Seigneur. Et je vais y revenir dans les caractéristiques qu'on verra, alors peut-être pas ce dimanche, mais la fois prochaine. L'attitude de Paul constitue un exemple pour nous. Il se consacre entièrement au service de son maître, le Christ. Il fait connaître le message que Dieu lui a confié afin de conduire ses auditeurs à la vie éternelle. Son attitude à l'égard du Seigneur et de son Église est source de réflexion pour nous, pour considérer la place qu'occupe le Seigneur et la mission dans notre cœur. Est-ce que nous sommes, entre guillemets, simplement serviteurs comme ça, ou est-ce qu'on est des esclaves du Seigneur ? Ah, ça change un petit peu la compréhension qu'on a des choses. Un esclave, il est constamment au service de son maître. Est-ce que nous, c'est notre cas ? Et de quel maître on parle aussi ? Paul, il ne dit pas ici qu'il est esclave de l'Église. Il dit qu'il est esclave du Seigneur. Parfois, on peut penser que les serviteurs, ils sont esclaves de l'Église. Non, avant tout, les serviteurs, ils sont esclaves du Seigneur avant toute chose. De la même manière que Timothée ou Tite ont appris à imiter l'apôtre Paul, nous aussi, nous sommes appelés à imiter. 1 Corinthiens 11:1, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis l'exemple de Christ. » Alors, penchons-nous sur ce que le responsable d'Église doit être. Et c'est le texte suivant. Verset 5. « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. Tite est mandaté par Paul pour établir dans chaque ville des responsables dans l'église inorganisée de Crète. Alors le terme grec pour responsable ici est presbyteros, qui signifie ancien. Donc c'est de la même chose dont on parle des anciens dans l'église. Et j'insiste sur un petit détail qui va être important pour l'après. Le terme est au pluriel. Il n'est pas au singulier. En fait, ce terme presbyteros est interchangeable avec le terme épiscopos, que l'on trouve ailleurs, qui signifie plutôt surveillant. Et lui aussi, il est au pluriel. Ça a son importance. Mais on parle bien des mêmes personnes quand on parle de surveillant ou d'ancien dans l'Écriture. Ils sont synonymes. L'ancien suggère l'idée de la maturité et de la dignité. C'est plutôt un terme qui est utilisé en rapport avec la culture juive. Et le surveillant rapporte celle de son rôle, et ça c'est plutôt issu de la culture grecque. Bien souvent dans nos églises modernes, on trouve l'organisation suivante. Il y a un pasteur, il y a un conseil d'administration, et il y a les membres de l'église, et puis enfin des sympathisants. En fait, cette organisation moderne diverge de ce que l'on trouve dans la Bible, car le terme « pasteur » n'apparaît qu'une seule fois, c'est en Éphésiens 4, et il ne désigne même pas ce que l'on entend par « pasteur » aujourd'hui. Pour autant, est-ce que ça signifie que l'église locale ne doit pas avoir de fonction pastorale ? Eh bien, je vous invite à regarder ce que dit l'Écriture. En Actes 20, verset 28, donc c'est les paroles de l'apôtre Paul qui sont rapportées par Luc, qui dit ceci. « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. » Alors vous savez que le pasteur, ça signifie berger. Paul s'adresse ici aux responsables de l'Église d'Éphèse, et le terme grec qui est employé est « épiscopos », surveillant au pluriel. Donc j'ai dit que c'était interchangeable. Donc on sait à qui Paul s'adresse. Ce verset, il fait écho à notre texte d'aujourd'hui. Car Paul demande aux responsables de l'Église de veiller sur eux-mêmes. Et on va voir avec toutes les caractéristiques qui en découlent, qu'il y a du boulot pour veiller sur soi-même. De veiller sur eux-mêmes et les caractéristiques que nous venons de lire donnent l'objet de notre surveillance propre. Il nous rappelle aussi qui est le bon berger. Ce n'est pas le pasteur de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église, képhalé en grec. Attention alors au risque de placer le pasteur d'une Église à la place du véritable berger de l'Église par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, parfois, c'est ce qu'on voit malheureusement. On voit dans certaines églises, sur l'estrade, une chaise qui ressemble à un trône très doré, où on demande au pasteur de s'installer là, devant tous. Pourquoi on fait ça ? Comment on considère le pasteur dans l'église ? Est-ce qu'on le porte au nu ? Est-ce qu'on lui donne une forme de super place de super chrétien ? Ou est-ce que c'est un ancien qui est esclave du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ ? Ça pose des questions, mais c'est malheureusement ce que l'on voit dans plein d'endroits. Un autre texte, alors là on a parlé de l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre y va aussi, dans sa première épître, au chapitre 5. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ, moi qui a aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Alors le terme ici, grec, pour responsable, c'est presbyteros, c'est ancien. Alors, avec ces deux textes, qu'est-ce qu'on comprend ? Surveillant, ancien ou pasteur désignent tous trois une seule et même charge. Une seule et même charge. Chaque texte nomme les responsables au pluriel. Je vous ai demandé d'être attentif à ce petit détail tout à l'heure. Ce qui montre que le responsable d'église n'est pas seul, mais qu'ils sont plusieurs. C'est la raison pour laquelle je défends une direction collégiale de l'église. Le christianisme est né dans le contexte juif où, contrairement au monde romain ou grec, le gouvernement était organisé selon un modèle oligarchique plutôt que monarchique. Par exemple, le Sanhédrin comprenait 71 membres et les synagogues étaient dirigées par un conseil d'anciens. La responsabilité collégiale était le modèle dominant de l'Église primitive. Par exemple, des anciens dirigent l'Église de Jérusalem. Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque Église. Actes 14-23. Dans 1 Thessaloniciens 5-12, Paul demande à ses lecteurs d'avoir des égards pour ceux qui travaillent parmi eux, pas celui, ceux. À Milet, il convoque les anciens de l'église d'Éphèse, acte 20-17. À Timothée, il parle de l'assemblée des anciens, pas l'assemblée de l'ancien, 1 Timothée 4-4. Ou encore Jacques demande aux malades, j'ai prêché dessus dimanche dernier, d'appeler les anciens de l'église pour prier pour eux, Jacques 5-14, etc., etc. Il y a plein d'autres textes, mais bon, je ne vais pas tous les mettre, je pense que vous avez compris où je veux en venir. En fait, on ne trouve nulle part dans le Nouveau Testament le moindre indice d'un conducteur solitaire, même pas dans les églises les plus petites ou les plus jeunes. Despine, un professeur de théologie, écrit « L'organe que Jésus a créé dans son église par l'action de l'Esprit pour l'accomplissement de la tâche pastorale est le collège des anciens. » Ce n'est pas un homme isolé qu'il a entendu confier la conduite de son troupeau en chaque lieu, mais un groupe d'hommes collectivement responsables. Et ce collectivement responsable, il a son importance. Pourquoi ? Parce qu'il constitue une protection pour l'Église. L'Église, elle n'est pas à la merci d'une seule personne qui décide, selon son bon vouloir, de ce qu'il est bon ou de ce qu'il n'est pas bon. Et c'est malheureusement un modèle que l'on trouve dans beaucoup d'endroits. Donc c'est une protection pour l'Église, car la personne n'est pas seule, elle est entourée, et donc on peut compter sur d'autres personnes, d'autres responsables, pour orienter, rediriger, attention, là ça va trop loin, ou au contraire, là il faut aller plus loin, etc., etc., pour s'ajuster. C'est une protection, je le crois, pour l'Église. Ça évite qu'un jeune pasteur comme Paul arrive et qu'il commence à faire n'importe quoi. Non, je crois que c'est une bonne chose que Paul soit entouré de personnes pour diriger l'Église avec lui. Et c'est aussi une protection pour Paul qui vous parle. Car si jamais quelque chose est mal fait, eh ben on ne va pas s'en prendre qu'à lui. Non, c'est qu'on prend les décisions en commun, on les discute, on prie ensemble, on réfléchit, on pèse le pour et le contre et on prend les décisions collégialement. Nous sommes responsables collégialement ensemble des décisions. C'est une protection donc pour l'Église et c'est une protection pour chacun des anciens qui ne portent pas tout seul la responsabilité de quelque chose. En fait, c'est un fonctionnement qui, je crois, est sain. C'est une bonne chose. C'est donc une protection pour l'Église et une protection pour le pasteur. Alors, là, normalement, je suis censé rentrer dans le détail de ce qu'un ancien ne doit pas faire. Soit je m'arrête ici, comme ça, ça vous tease bien pour la suite, ou soit j'avance un peu. Il est déjà 10, on peut s'arrêter là. Allez. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on rentrera dans le détail des caractéristiques qu'on a lues. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces petites choses-là ? Amen. Amen.